Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 8h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Imran Akil Omega, la mise en onde de Mamadou Awatara. Les affrontements continuent de plus belle entre les forces de l'ordre et les manifestants contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Plus de 23 personnes sont mortes, selon les responsables du mouvement M5-RFP. Pour apaiser ce climat de tension, des spécialistes estiment qu'il faut la libération des militants enfermés et proposent aussi l'ouverture d'un dialogue national d'ici à ce jeudi. Le procès du présumé djihadiste d'Ansar Dine et d'Al-Qaïda, Alassane Ag Mohamed Ag Mahmoud, s'ouvre ce mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors des événements de 2012 à Tombouctou. Le développement de ces titres dans un instant. La situation se décante peu à peu après les affrontements d'hier lundi à Bamako entre les forces de l'ordre et les manifestants contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Des pneus brûlés et des barricades ont été posées sur les grands axes et un peu partout dans la capitale. Suite à ces manifestations et aux ripostes des forces de sécurité, plus de 23 personnes sont mortes selon les responsables du mouvement M5-RFP. Les détails avec Maria Maïga.
Les membres du M5-RFP arrêtés au cours des différentes manifestations ont tous été libérés le lundi dans la soirée. L'information a été confirmée par les membres du mouvement. Mais avant cette libération, la journée d'hier lundi a été violente dans la capitale. À Daoudabougou, la route qui mène vers l'aéroport a été bloquée par des pneus brûlés au niveau du rond-point près de l'hôtel Ouassoulou. Des chargements de camions de sable ou de gravier ainsi que des blocs de béton interposés ont empêché la circulation sur le pont Fad et certains axes principaux. À Badalabougou, de nombreux manifestants ont été blessés ce lundi lors d'un affrontement entre des policiers et des militants du mouvement M5-RFP. Selon un responsable du regroupement, le bilan est de 23 morts, une centaine de blessés et plusieurs autres personnes arrêtées. Toutefois, des sources hospitalières indiquent un bilan de 11 morts et 120 blessés. Les troubles se sont propagés dans plusieurs quartiers de la capitale, malgré les appels au calme de l'imam Mahmoud Diko le dimanche à la suite de l'enterrement des victimes. D'autres responsables du mouvement ont précisé que les manifestations continueront jusqu'à la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon eux, la désobéissance civile se poursuivra même après la démission de l'Assemblée et la dissolution de la Cour constitutionnelle.
Des observateurs estiment qu'il faut impérativement libérer les manifestants pour apaiser le climat. Ils proposent également l'ouverture d'un dialogue national d'ici le jeudi prochain. À cette mesure s'ajoute la supervision de ces pourparlers par la communauté internationale, notamment la CEDEAO. C'est du moins ce que recommande Brahima Eli Duko, sociologue. C'était au cours de notre émission Grand Dialogue de ce lundi.
De mon point de vue, il faut aller assez rapidement vers la mise en application concrète de cette recommandation de la CEDEAO. Si on veut une solution, il est impératif aujourd'hui de libérer les détenus, d'arrêter l'utilisation de la violence et notamment des armes létales contre les citoyens. En faisant ça, on crée les conditions d'un dialogue.
En réalité, j'aurais voulu que le dialogue soit franc entre Maliens. Maintenant, sous l'égide de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'il faut un médiateur qui fasse le suivi des révolutions qu'on va prendre. Parce qu'au Mali, on a fait beaucoup de dialogues entre nous-mêmes, mais à chaque fois, il n'y a pas de suivi et donc après, on rébellote. Et il faut le faire, pour moi, impérativement, au plus tard, jeudi. Parce qu'en fait, le temps joue contre le Mali.
Dans ce contexte, est-ce que le dialogue national inclusif a réellement servi à quelque chose quand on voit cette crise sociopolitique?
Si, il a servi à quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas mis en place le comité de suivi. Donc, comme ils n'ont pas mis en place ça, on en est là aujourd'hui. Donc, si on fait un autre accord, s'il n'y a pas de suivi, on en sera encore là dans quelques mois.
Retrouvez nos informations sur nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Karim Keïta démissionne de la présidence de la Commission Défense, Sécurité, Protection Civile de l'Assemblée nationale. Cette déclaration de l'élu de la circonscription électorale de la commune 2 du district de Bamako a été relayée sur les réseaux sociaux hier de la soirée. Et selon ses propos, aucun sacrifice n'est trop pour le Mali. Il ne veut non plus être un frein au dialogue entre Maliens pour aboutir à un apaisement de la situation sociopolitique de notre pays. Le procès de l'ancien membre présumé d'Ansar Sardine et d'Al-Qaïda, Al-Hassan Agh Mohamed Agh Mahmoud, souffre ce mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Le djihadiste est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis à Tombouctou au moment de l'occupation du nord du Mali par les djihadistes. C'est le deuxième djihadiste malien jugé par la CPI après Ahmed Al-Faqi Ahmadi Sekou Gadjigo.
Les audiences qui débutent ce mardi matin vont se poursuivre jusqu'au vendredi prochain. Elles constituent la première partie de ce procès contre l'ex-membre présumé d'Ansardine et d'Acmi. Une seconde phase étant prévue pour le 25 août prochain. Au cours de ces audiences, l'accusation, c'est-à-dire le bureau du procureur, prononcera ses déclarations liminaires au procès. Quant aux avocats des victimes et la défense, ils ont annoncé vouloir faire leur déclaration liminaire à une date ultérieure, avant la présentation des éléments de preuve des différentes parties. Cette présentation est prévue au cours de la seconde partie du jugement. Al-Hassan Agh Mohamed est accusé de crimes sexuels, de torture, de destruction de bâtiments historiques dans la ville de Tombouctou entre 2012 et 2013. Ces charges qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été confirmées contre lui en juillet 2019 lors d'une audience à la CPI. Il faut signaler qu'en raison de la situation actuelle liée au Covid-19 et de l'accès limité aux locaux de la CPI, certains participants prendront part au procès à distance.
Son procès s'ouvre donc ce mardi à La Haye. Le djihadiste malien bénéficie pour le moment de la présomption d'innocence. De ce fait, certains de ses droits doivent être préservés tout au long du procès. Fadi Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, revient sur ce droit. Il est interrogé par nos confrères de la CPI.
Monsieur Al-Hassan est présumé innocent. Il bénéficie de certains droits au cours du procès devant la Cour pénale internationale. Par exemple, il peut être défendu par l'avocat de son choix. Il pourra présenter ses propres éléments de preuve et faire citer ses propres témoins. Il pourra aussi s'exprimer dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Il doit être informé en détail des charges qui pèsent contre lui dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Il doit également disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec ses avocats. Également, il ne peut pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. Il pourra garder le silence. Enfin, le procureur doit communiquer à la défense les éléments de preuve susceptibles de disculper l'accusé ou qui tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge.
Les mototaxis sont en plein essor dans le pays. La conduite de cet engin est un secteur qui attire de nombreux jeunes. C'est ainsi, si c'était inconnu du Malien lambda au début, aujourd'hui, ces motos sont très prisées au profit des autres transports en commun du fait de son coût moins élevé et de sa rapidité selon des usagers. C'est un secteur qui nourrit son nom, mais il a aussi son lot de difficultés. Amsetou Gogotouri.
Bamako pullule aujourd'hui de mototaxis. Pour les usagers, le recours à ces mototaxis est très avantageux du fait de leur rapidité et son coût moins élevé.
Je prends les mototaxis quand il y a beaucoup de bouchons pour arriver très rapidement au bureau. C'est moins cher, c'est très rapide.
Et puis voilà, et quand je dois me rendre à un endroit qui est vraiment loin, je sais que si je prends le taxi, ça va me coûter peut-être 5000 francs, peut-être 6000 francs. Et quand je vais en voiture aussi, ça va me coûter non seulement plus d'essence, ils sont très prudents aussi dans la circulation.
Kaba Diop est promoteur d'une entreprise de mototaxi. Selon lui, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes.
Ça va nous permettre d'abord, c'est-à-dire tout ce qui est création d'emplois, parce qu'à travers ce projet, on a créé pas mal d'emplois à l'endroit de la jeunesse malienne.
Mais ce boulot n'est pas sans difficulté, rappelle le jeune entrepreneur.
Quelqu'un qui transporte une personne ou ses biens, tu as la vie de la personne, c'est-à-dire à l'instant T, là où tu l'amènes, c'est-à-dire faire ses courses ou ses déplacements en un mot. On a beaucoup de difficultés même avec nos clients, parce que quand tu proposes à ce que ces personnes-là portent les casques, souvent, sur 10 personnes, c'est 2 seulement qui acceptent. Donc c'est ça qui nous fatigue beaucoup, mais soit avec les policiers ou surtout avec les gens, c'est-à-dire les conducteurs de sous-traitants ou taxis.
Rappelons que dans ce secteur, de nombreux jeunes aussi travaillent pour leur propre compte.
Ce lundi 13 juillet 2020, les services de santé ont enregistré un seul cas de COVID-19, 36 patients guéris et 0 décès au cours de ces 24 heures. À ce jour, le Mali compte 2412 cas positifs, 121 décès et 1730 guéris. À présent, place à la rubrique Actu COVID, une présentation de Moumine Sendebou.
Ces dernières semaines, le nombre de cas de coronavirus au Mali est en baisse. C'est ce qu'indique le professeur Akori Agiknan. Selon le coordinateur national de lutte contre la COVID-19, ce résultat est dû à la conjugaison des efforts des acteurs de lutte contre la maladie et ceux de la population. Malgré cette situation, il invite les populations à rester prudentes. Plus de détails avec Aïssata Diarra dans Actu COVID du jour.
Cette baisse de la courbe de COVID-19 s'explique par les stratégies des ripostes adoptées par les autorités maliennes, déclare le professeur Akori Agiknan. Parmi ces mesures, le coordinateur national de lutte contre la COVID-19 au Mali cite la réactivité des systèmes de surveillance épidémiologique. Professeur Akori Agiknan.
La courbe est en train de baisser, que nous avons quand même fait un bon ratissage à Mopti, qui était le deuxième épicentre de l'épidémie. Et à Bamako, on voit que le nombre de cas est en train de diminuer. Nous avons été l'un des pays qui a eu le meilleur système de surveillance depuis le début de l'épidémie, particulièrement en mettant l'accent sur les frontières aéroportières. Donc ça, c'est un élément important. Et nous avons encore la chance d'avoir 4 laboratoires en capacité de faire les diagnostics.
Pour maintenir ces caps, le coordinateur national de lutte contre la COVID-19 au Mali précise que plusieurs actions sont en cours.
Ce qu'on doit faire maintenant pour maintenir la tendance, c'est vraiment faire un lâche clinique au niveau des différentes communautés organisées, mais aussi au niveau des zones qui sont les épicentres. On s'apprête à faire un bon ratissage à Bamako. Et puis, le laboratoire mobile va être redéployé au début de la semaine à Mopti et ensuite à Gao.
Toutefois, il appelle les populations à la vigilance et au respect des mesures barrières, car selon lui, une nouvelle vague de contamination est possible.
L'actualité dans les régions nous conduit à Yogoso, où les passagers maliens à destination du Burkina Faso violent les mesures de fermeture des frontières. Des sources locales à Kouri indiquent que les cars qui quittent Bamako pour Bobo-Dioulasso s'arrêtent à Kouri et les passagers poursuivent leur chemin en traversant les frontières à travers les motos tricycles. Face à notre rubrique questions d'auditeurs, elle est répondue par professeur Yacouba Toulouba. Il est le responsable du deuxième centre de prise en charge de COVID-19 de l'hôpital Dipongi.
Docteur, il paraît que le virus de cette maladie résiste moins à la chaleur. Est-ce à dire que le risque est plus élevé pendant l'hivernage?
On n'a pas vu trop l'impact de la chaleur sur le nombre de cas diagnostiqués. On n'a pas assez de recul non plus. Peut-être que le nombre de cas qui est en deçà de ce qu'on dit dans les pays natifs, peut-être que la chaleur a quelque chose, mais scientifiquement on n'a pas de recul pour parler de tout ça. Une chose est sûre, il y a encore moins de morts. L'explication, c'est que la population africaine est une population jeune.
Ainsi se referme ce numéro d'Actu COVID. Au plaisir de vous retrouver demain et n'oubliez pas de suivre les conseils des médecins pour vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Malgré la fermeture des frontières à cause de la COVID-19, des usagers du Mali et du Burkina Faso contournent les mesures selon des sources locales. En effet, depuis plusieurs semaines, des tricycles communément appelés mototaxis font traverser les passagers de Kouri à Faramana au Burkina Faso et de Faramana à Kouri en déviant souvent les postes de contrôle. Les cars qui quittaient Bamako pour Bobo-Dioulasso s'arrêtent à Kouri et les passagers trouvent ce moyen de traverser la frontière, nous indiquent des sources locales. Une trentaine d'enfants venus de différents quartiers et de services techniques ont échangé ce week-end sur la maladie à coronavirus à Koutiala. Selon les responsables du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui a organisé la rencontre, elle a permis de donner la bonne information aux enfants pour une meilleure sensibilisation dans la société. La gendarmerie de Diré a été la cible d'une attaque dans la soirée du vendredi au samedi aux environs de 3h du matin par des individus armés non identifiés. Selon des sources locales, un véhicule plus deux motos, des matériels informatiques et un téléviseur ont été emportés par les assaillants. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ni de blessés, poursuit ces mêmes sources. Voilà ce qui met fin à cette édition présentée par Imran Akil Omega à la mise en nom de Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. We'll be right back.